Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque semaine, je vous livre des outils concrets pour votre classe pour que vous puissiez contribuer au plein épanouissement de vos élèves et à votre plein épanouissement. Dans ce podcast, vous allez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation et trouver des outils pour votre classe. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis ou collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. Avec Patricia Spinelli, éducatrice et formatrice Montessori et directrice de l'ISMM, nous avons échangé sur la liberté et la discipline. Voici les sujets principaux abordés dans cet épisode. Donc on a commencé par définir la liberté et la discipline. Elle a répondu à la question « Comment se construit la discipline intérieure ?» Comment l'enfant chemine du chaos vers la discipline ? Comment fait-on grandir cette discipline intérieure ? Quelle est la place de la concentration ? Et la place des enfants après 6 ans qui n'ont pas construit cette discipline intérieure entre 3 et 6 ? Je laisse place à ma conversation avec Patricia. Bonjour Patricia, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Céline.
Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, liberté et discipline. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner la parole, je voudrais proposer aux auditeurs de faire le 3-2-1. C'est un outil que j'ai emprunté à Julia Volkman, une éducatrice Montessori américaine et neuroscientifique, prof à Harvard. Et à la fin des conférences, elle propose à ses auditeurs de faire le 3-2-1. Donc c'est le fait de noter trois éléments que les auditeurs vont découvrir ou redécouvrir grâce à notre échange, deux éléments qu'ils ont envie de partager avec des collègues ou deux éléments qui les a questionnés sur lesquels ils ont envie de creuser un petit peu plus, et un élément qui va influencer leur pratique professionnelle. Donc je réexpliquerai ça aux auditeurs à la fin, mais le fait d'avoir en tête que je vais leur proposer le 3-2-1 à la fin, ça peut être bien parce que je suis sûre que vous allez nous apporter beaucoup de contenu, beaucoup de richesse sur ce sujet. Donc pour éviter que tout ce que les auditeurs apprennent là pendant une petite heure s'évapore dans la nature au fil des semaines, et ben voilà, le 3-2-1 va permettre d'éviter un peu cela. Alors, je pense que beaucoup de mes auditeurs vous connaissent, mais je vous laisse vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet.
Eh bien, je suis Patricia Spinelli, je suis la directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori, qui est un établissement qui compte 5 établissements en fait aujourd'hui, c'est-à-dire 3 centres de formation, un à Nogent, un à Lyon et un à Montpellier, et deux écoles Montessori, une à Paris, l'école Montessori de Paris, et une à Montreuil, les Enfants du Monde. L'Institut a été fondé il y a 25 ans maintenant, enfin ça fera 25 ans l'année prochaine. Voilà, et je suis moi-même éducatrice Montessori 3-6, formée, ça fera 50 ans l'année prochaine, et oui, et puis en Italie après, en 6-12 ans, et j'ai été formée également en 2005 pour les petits, ce qui me permet, enfin 0-3 ans, ce qui me permet aujourd'hui d'être formatrice à la fois auprès des éducateurs qui se forment pour la petite enfance, 0-3 ans et 3-6 ans, voilà, rapidement.
D'accord. Donc vous êtes formée aussi 6-12, mais vous ne formez pas pour le 6-12.
Voilà, je suis éducatrice 6-12 ans, et en fait je n'ai jamais travaillé avec la tranche 6-12 ans, mais je suis formée 0-3-6, et je suis formatrice pour les petits 0-3 et la maison des enfants 3-6, mais pas 6-12.
D'accord. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la liberté et la discipline. Dans mes auditeurs, il y a des enseignants plutôt novices en pédagogie Montessori, et il y a aussi des personnes un peu plus expertes, des éducateurs. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, le sujet puisse, que toutes les personnes qui nous écoutent, tous les auditeurs puissent repartir avec des nouvelles, puissent comprendre vraiment ce sujet. Donc, commençons déjà par des enseignants plutôt novices. J'imagine que si c'est la première fois qu'ils entendent ces deux mots côte à côte, liberté, discipline, peut-être qu'ils se demandent un petit peu de quoi il s'agit. Peut-être qu'on pourrait commencer par définir déjà ces deux termes.
Alors, déjà, dans la pédagogie Montessori, discipline et liberté, ce ne sont pas deux concepts différents. C'est un seul et même concept. C'est-à-dire que lorsque Maria Montessori parle de la discipline et de la liberté, elle ne sépare pas les deux mots. Hein. C'est-à-dire que dans la compréhension commune, la discipline et la liberté, ça varie en sens inverse. Hein. Mmh. C'est-à-dire que dans un environnement, plus il y a de discipline en général, on considère que moins il y a de liberté. Et plus il y a de liberté, on considère généralement qu'il y a très peu de discipline. Hein. C'est quelque chose qui va varier en sens opposé. Alors que pour nous, dans la pédagogie Montessori, c'est quelque chose qui se construit en interaction permanente. C'est-à-dire que si notre objectif et notre finalité, la finalité de l'éducation en général, et particulièrement de l'éducation montessorienne, c'est de construire la liberté chez l'enfant, c'est-à-dire de faire des êtres humains, des êtres libres, capables de décider pour eux-mêmes de leurs engagements dans leur vie, évidemment dans le contexte culturel et sociétal dans lequel ils vivent. Mais cette discipline et cette liberté, et cette liberté-là, elle ne peut se construire qu'en lien avec une discipline. Mais une discipline qui est tout autant intérieure que la liberté. Vous voyez ? Et la grande question, c'est de construire de façon simultanée et en lien permanent la discipline et la liberté. Et pour ça, et c'est ça qui est intéressant, mais peut-être il faudrait repartir un petit peu à partir de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas sorti du chapeau comme rien de la pédagogie Montessori, d'ailleurs on est sorti du chapeau de Maria Montessori, mais tout est né de son observation et de l'expérience qu'elle a eue auprès des enfants. Et c'est à San Lorenzo que cette affaire-là a émergé, parce que sa découverte fondamentale, et peut-être ça finalement, à part les éducateurs que l'on forme, ça je crois qu'on le martèle suffisamment pour qu'ils le savent, mais finalement assez peu de gens savent que la véritable découverte de Maria Montessori, c'est la polarisation d'attention et la concentration chez l'enfant comme facteur essentiel et indispensable du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle fait de la concentration la condition du développement psychique de l'enfant, personnel, hein, développement de la pensée, et la condition du développement social chez l'enfant. Vous voyez, elle écrira dans son livre « L'esprit absorbant », qui est un livre assez tardif puisqu'il a été écrit en 1946, eh bien, elle écrira « La conséquence de la concentration, c'est le développement du sens social. » Et la concentration, c'est ce qu'elle va découvrir chez l'enfant à San Lorenzo, c'est-à-dire un jour, elle va observer un enfant qui se lavait les mains, et puis comme habituellement, quand il a fini de se laver les mains, il rentrait dans la classe et commençait à jouer et à travailler. Et là, il va recommencer à se laver les mains plusieurs fois, et avec une expression qui se transformait, vous voyez, au fil de la répétition. Et ça, ça l'a beaucoup interrogée, parce qu'elle s'est dit, finalement, cet enfant, c'est plus pour avoir les mains propres qu'il recommence à se laver les mains. Parce que les mains propres, il les avait la première fois qu'il s'était lavé les mains. C'est-à-dire que s'il recommence, c'est qu'il poursuit un but intérieur qui nous échappe à nous adultes, qui échappe au regard de l'observateur, mais qui en tout cas, lui, il poursuit son propre but et son but est intérieur. Voilà. Et ça, ça va réorienter véritablement toute son observation des enfants à San Lorenzo jusqu'au jour où elle va observer une petite fille qui, 43 fois de suite, va répéter le même exercice avec les emboîtements cylindriques et c'est relaté dans son premier livre, La pédagogie scientifique. Et ce qu'elle va observer, c'est la concentration, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants sortent de ces moments de concentration. Eh bien, elle va dire Ils sont plus intelligents. Elle dira, ils paraissent comme dilatés. Hein, et puis, ils vont se diriger vers les autres d'une manière plus sociable. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser au travail des autres. Et petit à petit, à force de concentration chez les enfants, elle voit les enfants se transformer eux-mêmes, c'est-à-dire devenir plus calmes, aimer le travail, s'investir dans le travail. C'est ce qu'elle va appeler le processus de normalisation. Hein. C'est-à-dire que les enfants qui étaient dans le désordre, hein, qui étaient désordonnés, qui ne pouvaient pas s'attacher à un travail, qui étaient dans une petite agitation motrice, etc., et bien ils vont commencer à se poser sur un travail, à s'investir dans un travail et à se transformer. Et là où ça a été aussi ça, une de ces grandes, non pas découvertes, mais peut-être surprises d'ailleurs, c'est que ces enfants-là ont commencé à transformer leur milieu social. C'est-à-dire qu'elle a vu fleurir les balcons, des immeubles, elle a vu descendre les mères sont descendues la voir et lui dire « nous aussi on veut apprendre à écrire, nous aussi on veut apprendre à lire ». Voilà. Donc les mères sont descendues voir Maria Montessori parce qu'elle aussi, vous voyez, voulait apprendre à lire et à écrire. Et c'est vraiment là où elle a pris conscience que l'éducation, finalement, pouvait véritablement être un agent de transformation de la société, que l'enfant était l'agent de transformation de la société. Mmh. Alors, pour revenir quand même à notre propos qui est discipline et liberté, c'est-à-dire qu'à travers le travail, à travers la concentration, elle s'est aperçue que les enfants s'autodisciplinaient. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de choisir leurs activités, qu'ils étaient capables de s'installer de façon autonome au travail et qu'ils pouvaient s'investir dans une activité et que lorsqu'ils ressortaient de cette activité, eh bien, ils s'intéressaient à ce que faisaient les autres. Vous voyez, et c'est là où elle a commencé à construire ce concept de liberté et discipline. C'est-à-dire que pour elle, un enfant qui est capable de se concentrer, et elle l'écrit dans ses livres, elle dit c'est un enfant libre. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en contact avec lui-même, voyez, avec ses propres aspirations, c'est ce qu'elle va appeler le maître intérieur chez l'enfant, hein, c'est-à-dire qui il est lui profondément. Et ces temps de concentration, c'est ça, c'est l'enfant qui, à travers la manipulation d'un matériel, hein, d'un matériel qui n'est pas n'importe lequel d'ailleurs, hein, mais à travers la manipulation d'un objet, eh bien, va pouvoir se concentrer et rentrer vraiment en contact avec lui-même et se construire sur le plan psychique. Vous voyez, c'est ça fondamentalement la découverte de Maria Montessori. Après, elle va transposer les périodes sensibles, etc. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va, parce que c'est ça la question, comment est-ce qu'on va construire cette discipline et cette liberté intérieure chez l'enfant qui va lui permettre de se construire? Alors pour ça, elle va définir trois temps. Vous savez, elle a fait une conférence à Paris en 1939 à la Sorbonne qui s'appelait Discipline et liberté. Et puis il y a un chapitre de l'esprit absorbant qui s'appelle, je crois, la maîtresse montessorienne et la discipline. Voilà, ça reprend à peu près le texte de cette conférence, mais c'est un tout petit peu différent. Et dans le texte de sa conférence, elle nous explique pratiquement ce qu'il faut faire en fait. Et elle va distinguer trois stades différents ou trois temps différents dans le développement de l'enfant. Hein, et elle nous dit, voilà, le petit enfant qui en général, hein, pas tous, mais qui en général arrive à l'école à 3 ans ou à la maison des enfants à 3 ans, eh bien, c'est un petit enfant qui n'est pas ou peu capable de se concentrer, bien qu'il y en a qui le soient. Hein, mais généralement, elle dit, voilà, l'enfant, il est en état de désordre intérieur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas parfois et souvent faire un choix autonome, il ne peut pas s'installer avec un travail et s'investir, le répéter et se concentrer. Et notre travail à nous, éducateurs, ça va être d'accompagner l'enfant sur le chemin de la concentration. Et la première étape sur le chemin de la concentration, c'est permettre à l'enfant de pouvoir choisir son activité. Ça, c'est pour nous le premier pas de l'enfant vers sa propre construction. Et il y a des enfants qui arrivent à 3 ans à la maison des enfants qui sont tout à fait capables de choisir une activité, de s'installer ou non d'ailleurs. Hein. Mais déjà, le choix de l'activité, c'est la première chose. Et s'ils ne sont pas capables, notre travail à nous, éducateurs, ça va être de les accompagner sur ce chemin-là en leur donnant un choix limité. Hein, tu veux faire ceci ou tu veux faire cela, hein. Et parfois les enfants sont tout à fait capables de dire non, non, c'est ça que je veux faire, donner une troisième activité, très bien. Et ils n'osent pas aller le chercher, ils ont besoin d'être accompagnés, très bien, ben, t'as raison, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et puis certains, eh bien, ils vont choisir un des deux, et puis certains, ils vont être incapables de choisir un des deux, on va leur dire, tu sais, viens voir, on va faire ça, on va s'installer, et nous, on va faire ça tous les deux ensemble.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'on ne laisse pas l'enfant comme ça face à un choix, à plusieurs choix, non. On le guide au début pour le rassurer et l'aider à faire des choix par la suite.
Oui, et c'est ça, oui, et c'est ça la discipline. Mmh. La discipline, c'est de limiter l'environnement et d'adapter l'environnement finalement aux besoins intérieurs de l'enfant. Mmh. Celui qui sait choisir, il a le choix.
Voilà.
Celui qui ne peut pas choisir, et ça, on le voit, les enfants qui ne peuvent pas choisir, ça les inquiète. D'abord, tout ce matériel et cette liberté qui leur est donnée les inquiète terriblement. Alors, ils commencent à courir, ils commencent à vous voyez, se désordonner.
Oui.
Voilà. Et nous, on va les chercher, on va dire, viens voir, hein, tu viens avec moi, viens voir. Tu peux laver du linge ou tu veux enfiler des paires. Voilà. Et puis, on s'assoit à côté d'eux, parce qu'ils ne sont pas capables d'investir tout seuls une activité à ce stade-là. On s'installe avec eux, et puis on va rester 5 minutes, 10 minutes, plus s'il le faut, Oui, et petit à petit, on va construire comme ça la sécurité intérieure. Parce que c'est ça la clé. La clé, c'est la sécurité intérieure chez l'enfant. Et les enfants qui ne sont pas en sécurité, eh bien, ils ne peuvent pas faire un choix. Ils ne peuvent pas s'investir dans une activité. Et nous, notre travail d'éducateur, c'est d'accompagner ces enfants-là sur le chemin de la construction de la sécurité intérieure. Mmh. Vous voyez, en leur proposant un environnement limité. Vous voyez, c'est pas nous qui limitons l'enfant, c'est l'environnement qu'on va limiter pour l'enfant. Donc, le choix, il est limité. Et le choix, l'enfant qui a son libre choix, et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel aussi, à chaque liberté correspond un contrepoint qui fait discipline. L'enfant a le choix de son activité, mais il doit la ranger. Il peut travailler autant de temps qu'il veut, autant de fois qu'il veut avec le matériel, mais il doit le ranger là où il l'a trouvé et autant que faire se peut dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Hein, je dis autant que faire se peut parce que ça, ça se construit. Vous voyez, hein, on ne peut pas demander à des petits de 3 ans de remettre sur l'étagère un matériel dans l'état impeccable dans lequel il l'a trouvé. Donc ça, ça se construit petit à petit aussi. Mais voyez, à chaque fois, il y a un contrepoint. Mmh. L'enfant a la liberté de mouvement dans un espace Montessori, une classe Montessori. L'enfant a la liberté de mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. Mmh. C'est pas la liberté de courir dans tous les sens. C'est pas la liberté de monter sur les tables. Non, 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 c'est la liberté de voyez, c'est la liberté de mouvement qui a une intention. Oui. C'est-à-dire qui est dirigé vers un but, voyez, et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est tout à fait fondamental parce que s'il y a une phrase en ce moment qui me travaille, parce que c'est vraiment ça, je crois qu'elle me travaille, 50 ans après, elle me travaille, c'est l'enfant doit trouver à l'extérieur quelque chose d'organisé qui est en lien avec sa propre organisation. Vous voyez, l'hypothèse de Maria Montessori, c'est que les enfants possèdent des guides intérieurs. Ils ont des forces intérieures, les périodes sensibles, l'esprit absorbant, les tendances humaines, qui vont les mettre en contact avec l'environnement extérieur dans lequel ils arrivent. Et ça, dès la naissance. Eh bien, si l'enfant trouve à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'environnement, quelque chose d'organisé, qui est en lien avec ses forces intérieures, alors il y va tout seul. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il trouve l'aliment dont il a besoin au bon moment. Et il se développe tout seul. Vous voyez ? Et ça, c'est la grande clé, c'est-à-dire que à chaque liberté, il y a toujours un contrepoint qui fait cadre. Vous voyez, le cadre, c'est pas l'éducateur qui le met, c'est pas nous qui disons à l'enfant tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Non, nous, voilà, nous, on fait pas la discipline. Ce qui fait discipline, c'est le cadre même que nous posons dans l'environnement. Et c'est ça qui va faire cadre, et c'est ça qui va faire discipline. La présentation du matériel, vous voyez, chez les enfants, c'est un autre petit cadre que l'on donne. C'est-à-dire qu'on va montrer à l'enfant la fonction du matériel. Hein. Voilà, c'est une proposition d'activité. Voilà, je te montre comment on fait cette activité et après, l'enfant, il en dispose. C'est-à-dire que ça aussi, c'est pas toujours très bien compris. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'attente que les enfants refassent exactement ce qu'on a fait. Hein, nous sommes dans l'attente que l'enfant se mette au travail avec cette activité comme il peut. Comme il peut. Mm-hmm. Vous voyez ? Et puis parfois, c'est très différent. Et nous, on va observer ce que l'enfant fait, parce que ce que l'enfant fait avec l'environnement nous révèle là où il en est dans son développement intérieur.
Ouais, c'est passionnant. Et je crois que vous étiez partie de la conférence donnée par Maria Montessori à Paris avec le premier niveau, le désordre. Ah oui, et est-ce que du coup, voilà, vous...
Voilà. Donc, il y a un premier niveau de construction qui est... Enfin, c'est pas un premier niveau de construction, d'ailleurs. C'est l'enfant qui va arriver et Maria Montessori, elle nous dit, il est dans un état de chaos. Elle exagère un peu. Elle exagère parfois, souvent, dans ses livres. Mais je crois que, bon, faut resituer tout ça dans son contexte à la fois historique et éducatif. Enfin, hein, elle l'a écrit dans la première partie du XXe siècle. Hein. Voilà, donc il fallait parfois marteler haut et fort les choses. Donc elle nous dit, le petit enfant qui arrive à l'école, il est dans un état de chaos. Donc à défaut de chaos, on peut dire parfois dans un état de désordre. Hein, de désordre, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se centrer sur une activité, de se mettre au travail de façon autonome. Voilà. Et puis elle va nous dire, donc nous, notre travail, ça va être, et c'est toujours la même chose, notre travail d'éducateur, c'est d'inviter l'enfant à l'activité avec le matériel. D'inviter inlassablement l'enfant à l'activité, d'abord les activités de vie pratique qui sont reliées à la vie quotidienne, qui engagent le mouvement et qui vont intéresser les enfants. Faire le pain, laver la vaisselle, enfiler des perles, couper des carottes, etc. Vous voyez, ce sont des activités qui engendrent le mouvement et qui vont petit à petit permettre à l'enfant de se poser sur une activité qui est intéressante, parce que faire du pain, ça, je peux vous dire que ça intéresse beaucoup les enfants, et puis qui est reliée à la vie de l'enfant, qui est utile à l'enfant et à la société et au groupe. C'est-à-dire que quand ils font le pain, c'est le pain qu'ils vont manger au déjeuner. Vous voyez ? Donc, et on fait un pain par jour. On n'en fait pas 50 000. On en fait un par jour. Et celui qui a fait le pain, c'est celui-là qui va l'offrir à tous les enfants au moment du déjeuner. Vous voyez l'acte social que c'est ? Et je peux vous assurer que pour des enfants qui sont très en désordre, leur proposer d'aller faire le pain, c'est quelque chose qui les pose vraiment. Vous voyez ? Et puis qui les valorise après, puisque c'est eux qui ont fait le pain. Vous voyez ? Au regard des autres, c'est très valorisant. Donc, je ne sais plus bien où on était. Voilà, donc on va leur proposer le travail. Hein, et c'est par le travail qu'on va amener les enfants petit à petit à se poser sur une activité. Et parfois, il faut être très patient. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ce que Maria Montessori a appelé l'ordre apparent. Hein, l'ordre apparent, c'est quand les enfants commencent à être capables de choisir une activité, mais ils ne sont pas encore capables de répéter l'activité. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un matériel, ils le manipulent une fois, ils le rangent. Ils vont choisir autre chose, ils le rangent. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce moment où l'enfant va se poser, répéter et se concentrer. Voilà. Mais c'est déjà un pas supplémentaire par rapport à celui qui est incapable de choisir, de se poser, qui est dans une agitation permanente. Là, ils sont déjà capables de choisir, le premier pas est fait. Encore faut-il maintenant investir vraiment l'activité. Et donc, elle nous décrit l'ordre apparent et elle nous dit d'ailleurs, et c'est assez exact, que beaucoup d'écoles Montessori, enfin les enfants dans un certain nombre d'écoles Montessori, sont dans cet état d'ordre apparent. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils travaillent, qu'ils sont au travail, mais quand on regarde véritablement ce qui se passe, en fait, on s'aperçoit que très peu sont capables de se concentrer vraiment. Et c'est vraiment quand l'enfant se concentre qu'il se nourrit, vous voyez. La concentration, c'est vraiment le repas psychique, si je puis dire, vous voyez, le repas psychique de l'enfant. Il est en train de se construire. Alors, quoi ? On n'en sait rien, vous voyez. Et ça aussi, c'est vrai que ça nous échappe, mais l'enfant est en train de faire une expérience dans un ici et dans un maintenant, avec un matériel, et on sent que quelque chose se construit en lui, parce que lorsqu'il sort de la concentration, effectivement, vous voyez, il est nourri, il est satisfait. Il y a quelque chose qui le remplit, voyez. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est le troisième temps. Hein, c'est le temps de la construction intérieure. C'est-à-dire, le troisième temps, c'est le temps de la concentration et de la transformation de l'enfant.
Et est-ce que c'est la même chose que le premier, enfin le premier niveau d'ordre, ça serait l'ordre apparent, et le deuxième niveau d'ordre, la construction intérieure. D'accord. Et donc, comment accompagner les enfants pour passer de ce premier niveau d'ordre au deuxième ?
Alors, ça, c'est une question importante et intéressante parce que c'est peut-être la question. Vous voyez, parce que le passage du désordre à l'ordre apparent, ça, c'est assez facile. Et c'est là où on s'aperçoit que la pédagogie Montessori est quelque chose d'extrêmement exigeant pour les éducateurs. C'est-à-dire que pour moi, la clé, c'est la précision de l'environnement, la qualité de l'environnement et la précision du travail des éducateurs. Je m'explique. Dans un environnement Montessori, un environnement Montessori doit être ordonné. Ça, c'est... Pardon, excusez-moi. Ça, c'est la condition principale. Ça doit être ordonné, puisque l'enfant doit trouver à l'extérieur quelque chose d'organisé en lien avec sa propre organisation, période sensible de l'ordre, jusqu'à 6 ans. Ça veut dire que l'environnement que nous proposons aux enfants jusqu'à 6 ans, ce sont des environnements qui doivent être porteurs d'ordre, parce qu'à partir de cet ordre extérieur, l'enfant va construire sa propre organisation intérieure, sa propre faculté de penser de façon ordonnée et logique, et de s'orienter dans l'environnement, donc construire la sécurité. Le premier facteur de sécurité, c'est l'ordre. Donc, l'environnement doit être ordonné, ça c'est la base. Et quand on dit ordonné, vous savez, l'ordre, il est à 3 ou 4 niveaux. Hein. C'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir se repérer dans l'espace. On ne mélangera pas le matériel de vie pratique avec le matériel sensoriel de maths ou de langage. Il y aura des étagères distinctes pour la vie pratique, le matériel sensoriel, le matériel de mathématiques, de langage, de géographie, de sciences, peinture, dessin, bibliothèque, etc. Tout ça, c'est très ordonné. Après, chaque matériel a une place et une seule sur les étagères. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rapporter le matériel sur l'étagère de vie pratique quand c'est un matériel de vie pratique et de le mettre n'importe où. Non, vous voyez, la discipline, elle est là. Tu te souviens où tu l'as pris, ce matériel ? Demande-t-on à l'enfant au début. Oui, alors je te laisse aller le ranger. Hein ? Tu te souviens, tu l'as pris ? Non, alors viens voir, je vais te montrer. Hein, tu vois, c'est ici qu'on le range. Et il a une place, une seule. Et ça, ça structure l'enfant. Vous voyez, ça structure aussi l'organisation de pensée de l'enfant, l'organisation psychique de l'enfant, toute cette organisation des étagères. Ensuite, le matériel sur le plateau, il est ordonné. Hein, c'est-à-dire quand on a plusieurs objets, chaque objet est placé dans l'ordre d'utilisation. Vous voyez, ça c'est aussi un ordre qui est extrêmement important puisque l'enfant va pouvoir s'étayer pour son activité sur cette organisation que l'adulte a donnée à l'activité. Parce que qu'est-ce qui intéresse un petit enfant de 3 ans ? C'est pas organiser l'activité, la table ou laver du linge ou se laver les mains. C'est se laver les mains, c'est laver la table, c'est laver le linge. Vous voyez, c'est ça qui l'intéresse. Si tout est en désordre, il est là devant son plateau et il ne peut rien faire. Alors que si tout est ordonné, vous voyez, le savon, l'éponge, vous voyez, et tout est, voilà. Et là, du coup, il peut se mettre à travailler. Et vous voyez comment on organise aussi la pensée de l'enfant. Et quand à 5, 6, 7 ans, on va lui demander de faire des recherches, d'organiser son travail, alors il a absorbé, il a internalisé un modèle qui est celui qu'on lui a proposé quand il était plus jeune. Vous voyez comment on va construire la pensée logique chez l'enfant. Et ça, c'est aussi un élément fondamental. Donc, l'ordre, et puis après, il y a l'ordre intrinsèque. Qu'est-ce que ce matériel va construire chez l'enfant comme organisation personnelle. Voilà. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de l'ordre.
Parce que je vous ai demandé comment passer du premier niveau d'ordre au deuxième niveau d'ordre.
Donc, voilà, c'est ça. Donc, il faut déjà que l'environnement soit extrêmement précis dans son organisation. Ensuite, il doit être propre, c'est-à-dire que, surtout la vie pratique, ça ne souffre pas de ne pas être propre. Hein. Et Maria Montessori, elle disait que l'environnement devait être extrêmement soigné et elle a raison. Parce que si le matériel n'est pas beau, la beauté du matériel est un facteur essentiel dans la pédagogie Montessori, l'esthétique du matériel, c'est ça qui va attirer l'enfant à l'activité. Vous voyez, c'est parce qu'il y a des petites boîtes, des jolies petites boîtes, il y a des jolies petites bouteilles. Hein. Et je peux vous relater même une anecdote qui m'est arrivée lorsque on fait des salons de temps en temps diverses et variées sur l'éducation, etc. Et puis un jour on avait pris du matériel sensoriel, on a un qui est particulièrement beau, c'est le matériel des solides géométriques. Je ne sais pas si vous le connaissez. On a des solides géométriques qui sont laqués bleu roi, c'est très très beau ce matériel, et ils sont disposés dans un panier. Et j'avais pris des solides géométriques entre autres choses. Et il y a un adolescent qui passe, il s'arrête devant le panier et il me dit « Oh madame, c'est beau ça !»
Je peux toucher ?
Voilà. Ah, je lui dis « Non, je ne te le donne pas, je suis d'accord avec toi, c'est beau, mais je ne te le donne pas. » Vous voyez, c'est ça, ça attire. Quoi. Ouais. Vous voyez, ça attire. Et c'est la beauté du matériel, l'esthétique, la propreté qui va attirer l'enfant. Et c'est essentiel parce que nous, on veut que l'enfant se mette en activité. Donc au départ, c'est le matériel qui attire l'enfant. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Alors ça, c'est du côté de l'environnement extérieur. Vous voyez, ça doit être propre. Parce que si les étagères sont poussiéreuses, si le matériel n'est pas propre, les enfants ne vont pas travailler avec. Et ça, je peux vous dire que tout éducateur a fait l'expérience de ça. Ça, c'est sûr. Après, il y a l'attitude de l'éducateur. Vous voyez, notre propre attitude à nous. C'est-à-dire que plus nous serons précises dans notre présentation du matériel, plus nous serons ordonnés dans notre proposition lorsque nous présentons le matériel à l'enfant. Parce que qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Finalement, vous voyez, une présentation, c'est un temps de transmission. On veut transmettre un mouvement avec la vie pratique. On veut transmettre une classification, quelque chose d'un peu plus sophistiqué sur le plan cognitif avec le matériel sensoriel. Et ce qu'on veut surtout transmettre, c'est la concentration. Puisque le matériel est donné pour que l'enfant se concentre. Eh bien, si nous-mêmes, nous ne sommes pas concentrés lorsque nous présentons du matériel à l'enfant, qu'on est là en train de regarder à droite, à gauche, qu'on se laisse disperser parce qu'un enfant a besoin d'autre chose, qu'on se lève, qu'on laisse l'enfant... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas construire l'ordre chez l'enfant dans une attitude désordonnée. Et ça, c'est très exigeant. Vous voyez, parce que ça demande une véritable conscience à la fois de son travail, à la fois de son être, en présence de l'enfant et dans la relation. Voyez. Et moi, je dis toujours aux éducateurs, parce qu'ils me disent, mais mon ambiance, elle est brouillonne, elle est bruyante, les enfants, ils ne se posent pas, ils ne répètent pas. Alors oui, on va se poser là, puis on va réfléchir ensemble. D'abord, tu vérifies tout ton environnement extérieur. Et puis après, tu vérifies ta propre attitude. Soit, voyez. Et si nous-mêmes, on n'est pas, ordonnés finalement, concentrés sur notre propre travail, comment voulez-vous que les enfants le soient? Qu'est-ce qu'on transmet du désordre? On transmet du désordre. Ben voilà, les enfants sont cohérents. Voyez. Alors, je voudrais peut-être revenir quand même sur discipline et liberté, parce qu'en vous parlant, là, une idée m'est venue. Vous voyez, pour construire la discipline et la liberté intérieure, on va partir de la discipline et de la liberté extérieure. Hein. Je vous ai dit que ce qui faisait discipline, c'était le cadre. On range son matériel là où on l'a trouvé. Quand on se déplace, en général, on essaie d'avoir un but défini. Et puis, bon, il y a d'autres comme ça, d'autres choses qui font cadre dans la pédagogie Montessori. Et petit à petit, et le point de bascule, vous voyez, le point de bascule, c'est la concentration. C'est-à-dire que la liberté, au début, elle est extérieure. Oui, tu as le choix de ton activité. Oui, tu peux te déplacer, hein, mais avec toujours le contrepoint qui fait discipline. Et puis, à un moment, quand l'enfant commence à se concentrer, eh bien, il y a la bascule qui se fait, c'est-à-dire que c'est plus la beauté du matériel qui va attirer l'enfant, mais l'enfant va arriver à l'école en vous disant « Moi, ce matin, c'est ça que je veux faire. » Vous voyez ? Et ça, c'est totalement différent. Parce que maintenant, il sait ce que lui veut faire. C'est plus le matériel, c'est son intérêt. C'est son impulsion intérieure qui le pousse à aller vers. Il sait ce qui est bien et bon pour lui. Voilà. Et celui-là, il est discipliné. Et celui-là, il est libre. Voyez. Et le point de bascule, c'est vraiment de la concentration.
Je l'ai vécu en quelque sorte avec une enfant de grande section il y a 2 ans dans une école traditionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous décrivez, mais elle arrivait le matin et au portail, elle me disait « Je veux apprendre à lire ».
Ben oui, ben voilà. Voilà. Vous voyez, elle voulait, elle avait son intérêt personnel. Ouais. Elle avait son intérêt, c'était ça qu'elle voulait faire. Hein. Ouais. Elle était en contact, vous voyez, avec son intérêt profond.
Ouais. D'accord.
Et on le voit bien, ça, vous voyez, les petits qui arrivent, qui se promènent le long des étagères. Qu'est-ce que je vais bien faire ce matin? Tiens, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Ah, puis voilà, s'ils se promènent le long des étagères. Ah ben voilà, ça. Et hop, ils prennent un petit panier, ils prennent un petit plateau. Et puis les autres qui arrivent en ligne droite et qui se dirigent vers un matériel. Et qui savent très bien ce qu'ils vont faire et qui sont capables d'organiser toute leur matinée. Hein. Ouais.
Il y a une citation de Maria Montessori que j'aime beaucoup quand elle dit que la vie entière se fonde sur des choix dans l'enfant et l'avenir de l'homme.
La vie n'est pas fondée sur une succession. Une succession. La vie n'est pas fondée sur des envies, mais sur une succession d'actions qui doivent s'harmoniser entre elles. Oui.
Voilà. Et c'est vrai que dans la vie, on est sans arrêt en train de faire des choix. Du matin au soir, en tant qu'adulte, on doit faire des choix. Et leur laisser cette opportunité dès qu'ils sont jeunes, ça paraît mais évident maintenant.
Ben oui. Ouais. C'est-à-dire que ça se construit, quoi.
Voilà, ça se construit.
Et du coup, ça se construit. C'est pas inné. La liberté, c'est pas inné. La liberté, ça se construit. La discipline, ça se construit. Voyez, et ça se construit en interaction permanente. Hein, c'est-à-dire que je ne peux pas être libre si je n'ai pas un cadre qui m'a porté et qui m'a structuré.
Ouais.
Voilà. Et je ne peux pas être disciplinée si je n'ai pas eu un minimum de liberté d'action.
Ben, voyez. Et du coup, j'ai une question à vous poser, parce que comme cette discipline intérieure, elle se construit dès le début, et particulièrement entre 3 et 6 ans, qu'est-ce que vous pensez des enfants de 6 ans qui étaient scolarisés dans une école traditionnelle, qui ont un vécu tout autre? Et est-ce que pour vous, c'est possible de les intégrer dans une ambiance 6-12? Possible, judicieux? Comment s'y prendre? Quel est votre avis là-dessus?
Alors, mon avis, c'est que oui, bien sûr que c'est possible, hein, quand même, et heureusement. La question, c'est qu'il n'en faut pas la moitié de la classe. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait intégrer un enfant qui n'est pas allé en maison des enfants dans une classe élémentaire, voire un collège, hein, mais à petite dose. Hein, c'est-à-dire que 1 ou 2, vous voyez, parce qu'au début, ils sont très déroutés. Au début, ils sont très déroutés parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur liberté. Parce qu'effectivement, à 6 ans, les enfants qui ont fait la maison des enfants, à 6 ans, ils sont tout à fait capables de gérer leur liberté, c'est-à-dire qu'ils savent s'organiser, ils savent organiser leur travail, etc. Mais quand un enfant arrive de l'école traditionnelle, il n'a pas appris ça, parce qu'on lui a toujours dit ce qu'il devait faire. Hein, il a dû demander en plus l'autorisation de faire ce qu'il voulait faire ou pouvait faire, etc. Donc, ils arrivent et là, soudainement, le cadre permet la liberté. Ils ne savent pas quoi en faire. Alors, généralement, ça les désorganise ou ça les inhibe. Hein, c'est souvent l'un ou l'autre. Donc, s'il y a un ou deux enfants, voilà, on arrive à le porter et à faire en sorte qu'ils s'adaptent assez facilement assez facilement. Et pour les adolescents, c'est pareil. Après, quand on ouvre une école élémentaire et qu'on prend la moitié de la classe qui sort de qui arrive de l'école traditionnelle, c'est catastrophique.
Oui.
C'est catastrophique parce que vous voyez, ils emmènent la classe de l'autre côté, quoi. Emmènent le groupe de l'autre côté.
D'accord.
Et là, c'est catastrophique. C'est compliqué, c'est pas catastrophique, c'est compliqué, quoi.
Et ce que vous disiez juste avant que je vous pose cette question, en fait, c'est que la discipline intérieure, c'est un but à atteindre. Et c'est pas quelque chose de préexistant, de déjà construit.
Ah non, non. Elle le dit, Montessori. C'est une construction. C'est une construction. La discipline intérieure, c'est une construction. La liberté, c'est une construction aussi.
Voilà. Hein? Et moi, je fonctionne beaucoup avec des cartes mentales parce que ça m'aide à organiser mes idées. Et du coup, j'ai écrit au milieu de ma feuille « Discipline intérieure se construit par » avec deux flèches. Et j'ai mis « La préparation de l'environnement et la préparation de l'adulte ».
Oui, les aides au développement. Le troisième terme, alors il y a deux autres termes. Il y a les aides au développement, c'est-à-dire le matériel Montessori.
Donc ça, vous ne le considérez pas à l'intérieur de la préparation de l'environnement. C'est une autre flèche pour vous. Enfin, un autre...
Ah bah, c'est-à-dire que ce que Maria Montessori appelle environnement préparé, c'est un concept, un terme très générique qui englobe l'aménagement de l'espace, qui englobe la préparation de l'éducateur, qui englobe les aides au développement et qui englobe un quatrième terme, donner du temps à l'enfant. Donner du temps. Voilà. Alors après, tout ça, c'est l'environnement préparé. Alors après, on peut considérer que l'environnement préparé, c'est l'aménagement spatio-temporel, finalement. Vous voyez ? Hein ? Mais du coup, on a quatre facteurs. On a l'aménagement spatio-temporel, la préparation de l'éducateur, les aides au développement et le donner du temps à l'enfant. Et vous savez, les aides au développement, c'est pas n'importe quoi. Parce que le matériel Montessori, en tout cas à la maison des enfants, hein, le matériel Montessori, il a été étalonné par Maria Montessori, c'est-à-dire qu'elle a fait une véritable expérience, hein, à partir du matériel de ce gars, une fois qu'elle a eu découvert le phénomène de la polarisation de l'attention et de la concentration chez l'enfant. C'est-à-dire qu'elle en a fait construire différents prototypes, différentes formes, grandeurs, couleurs, etc. Elle l'a donné à manipuler aux enfants. Et elle n'a conservé que le matériel qui suscitait le maximum d'attention. Mmh. Et c'est comme ça que du matériel de ce gars, on est passé au matériel Montessori. Mmh. Donc, et dans la pédagogie scientifique, tome 2, qui s'appelle maintenant l'éducation élémentaire, dans un chapitre qui s'appelle ma contribution expérimentale, elle développe vraiment ça. Vous voyez ? Et elle dit que le matériel que nous proposons aux enfants doit être déterminé en qualité et en quantité. C'est-à-dire que le stimulant sensoriel doit être déterminé en quantité et en qualité. C'est-à-dire que trop de stimulation disperse l'intérêt, trop peu ne suscite pas l'intérêt. Donc, il faut, vous voyez, la bonne dose, il faut juste ce qu'il faut. Et elle a fait ce travail-là. Hein. Vous voyez, le matériel Montessori, ce n'est pas n'importe quels objets. Vous voyez, il est vraiment déterminé en quantité, en qualité. C'est vraiment un matériel
scientifique.
Ah oui, voilà. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle dit que son matériel est scientifique. C'est-à-dire qu'il a quand même été déterminé à partir d'une expérience qu'elle a réalisée auprès des enfants.
Et j'aimerais vous demander comment... Donc là, vous nous avez déjà donné beaucoup de choses, mais comment on fait grandir cette discipline intérieure chez l'enfant ?
Chez l'enfant ?
Oui.
Ben, pour nous, la réponse est toujours la même. C'est par le travail, par l'activité. Vous voyez ? Par l'activité... Et puis, évidemment, par notre attitude aussi. Hein, c'est-à-dire que... Et c'est là aussi que je pense que dans la pédagogie Montessori, la pédagogie Montessori, c'est un véritable changement de paradigme. Et ce qui n'a pas encore été tout à fait perçu, parce qu'on réduit beaucoup la pédagogie Montessori à son matériel, voire à un matériel didactique, hein, beaucoup. Hein, c'est-à-dire que les lettres rugueuses sont données pour apprendre à lire. Non, les lettres rugueuses ne sont pas données pour apprendre à lire. Les lettres rugueuses sont données pour que l'enfant se construise en tant qu'être humain, etc., et puisse accéder à une étape de construction à travers la lecture, bien évidemment. Mais vous voyez, ce n'est pas le but direct. Hein. Donc, par l'activité, on arrive à aider l'enfant à se sécuriser, parce que c'est ça la question. Et par l'attitude de l'adulte, qui essaie autant que faire se peut, parce que ça c'est très difficile, surtout pour nous Français qui nous sommes construits sur quelque chose d'extrêmement traditionnel et direct, fais pas ci, fais pas ça, non, oui, etc. Là, c'est d'essayer toujours de répondre indirectement à un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant se met à courir dans la classe n'importe comment, de façon désordonnée, on va essayer d'éviter de lui dire « est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît ?» Mais on va lui dire, tu sais, viens voir, hein, on va marcher sur la ligne tous les deux. Mmh. Et puis on va marcher sur la ligne avec une bougie allumée. Vous voyez, on va recentrer l'enfant sur une activité et sur une activité corporelle qui va susciter et lui demander une attention. Vous voyez, c'est ça, créer l'attention chez l'enfant. Hein. Ou viens, on va aller laver du linge. Viens, on va aller. Et on le fait avec lui. Parce que si on le laisse tout seul, il repart immédiatement. Voilà. Il a besoin d'être accompagné. Vous voyez, c'est les deux choses. C'est l'accompagnement de l'adulte et puis la proposition d'activité.
D'accord. Voilà.
Donc, et ça, c'est une petite révolution quand même.
Oui. Donc, c'est en lui proposant un travail qu'il aime, un travail qui répond profondément à ses besoins. Et du coup, ça, pour pouvoir lui proposer, c'est aussi grâce à l'observation qu'on saura. Donc, si j'ai bien compris, ça fait observation pour savoir, pour justement pouvoir le guider. Le travail bien choisi, on lui laisse la possibilité de répéter. La concentration va naître, le perfectionnement et l'autodiscipline, comme un cercle vertueux, quoi.
Voilà, ça, c'est le cycle.
Un cycle, voilà.
Ouais.
D'accord. J'aurais aussi voulu vous poser des questions. Quand j'ai lu l'ouvrage d'Olivier Houdet, « Apprendre à résister », Olivier Houdet parle beaucoup de terrorisme, de guerre, de voilà, plein d'actes un peu affreux. Et en fait, il explique que le projet de Maria Montessori dans la conception de ces écoles était déjà porteur de cette idée de paix. Et que le contrôle cognitif, ça ne concerne pas seulement les apprentissages, lire, écrire, compter, raisonner, mais aussi le contrôle de soi pour la tolérance et la paix. Donc j'aimerais voilà, qu'on termine notre échange en parlant de ça.
Bah oui, et c'est ce que je vous expliquais finalement, c'est ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a commencé à percevoir et à élaborer à San Lorenzo. Vous voyez ? Quand elle a vu ses enfants se transformer à partir de la concentration, parce que tout ça, elle ne le savait pas. Vous savez, tout ça, elle ne le savait pas. Si on reprend un peu la vie de Maria Montessori, si on reprend sa vie, elle a commencé à l'hôpital psychiatrique avec les enfants qu'on appelait à l'époque idiots, dégénérés, etc. Et je crois que elle était étudiante en médecine encore à cette époque-là, puisque c'était en 94 la première fois qu'elle a fait un stage en psychiatrie. Et là, elle s'est déjà rendue compte, là, de l'importance de la manipulation chez l'enfant. Et c'est là où elle a pris conscience du besoin qu'ont les enfants de manipuler les objets. Quand les petits-enfants se jetaient sur des miettes de pain parce qu'ils n'avaient rien à faire, ils étaient dans des pièces où il n'y avait rien, ils se jetaient sur des miettes de pain pour les manipuler. Donc ça, c'était sa première observation, la manipulation. Ensuite, et c'est là où, au congrès de Turin en 1898, elle va déclarer que finalement, la solution pour les enfants malades mentaux, c'est peut-être plus pédagogique que médical, d'autant plus qu'à l'époque, la médecine, surtout psychiatrique, il n'y avait pas grand-chose. Donc, elle va commencer à s'intéresser à la pédagogie. Et puis, elle va arriver à l'école orthophrénique. À l'école orthophrénique, on n'est plus à l'hôpital psychiatrique, on est à l'école. On n'est plus chez les malades mentaux, on est chez les déficients sensoriels. Et là, son souci, c'était d'apprendre à lire et à écrire et à compter aux enfants. On était du côté de l'instruction. Parce que qu'est-ce qu'elle avait constaté ? Que les enfants malades mentaux, personne ne se souciait d'essayer de les instruire. Et en 98, à Turin, elle dira « Nous devons redonner à ces malheureux leur dignité d'être humain et les enfants malades mentaux ne sont pas dehors la loi. Ils ont droit à tous les bienfaits de l'instruction. » C'est-à-dire qu'on doit essayer. On n'est pas obligé de réussir, mais on est obligé d'essayer de leur apprendre à lire, écrire et compter. Mais de les réinsérer, de les insérer dans la société. Ils ne sont pas au banc de la société. Vous voyez ? Et donc, elle était soucieuse de ça. Elle arrive à l'école orthophrénique, il fallait apprendre à lire et écrire aux enfants. Donc, elle s'est intéressée à Seguin, à Itard. C'est là le détour par Seguin et Itard. Elle a rapporté tout ça en Italie. Les résultats qu'on connaît, en 2 ans de temps, les enfants de l'école orthophrénique, ils avaient passé les examens de l'école normale, ils avaient réussi mieux que les enfants normaux. Donc, c'est là où elle s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe avec les enfants normaux à l'école normale? Si on leur donne peut-être ce matériel, si on leur donne à manipuler ce matériel, peut-être ça va développer leur potentiel humain. Et là, elle quitte petit à petit l'instruction pour aller du côté du développement du potentiel humain. Et après, il y a l'expérience de Saint Lorenzo, qui est encore une nouvelle expérience pour elle, parce que les petits, elle n'avait jamais travaillé avec les petits, parce que l'école orthophrénique, c'était une école élémentaire. Elle n'avait jamais travaillé avec les petits. Elle arrive avec les petits de 3-6 ans, elle commence à mettre le matériel de ce gars, elle découvre le phénomène de la concentration, et c'est là où elle s'aperçoit que par la concentration, voyez, l'enfant se transforme lui-même et transforme son environnement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, et c'est là où elle a vraiment réalisé que c'était, l'enfant était vraiment acteur de transformation de la société. Et que si on voulait construire une société plus pacifique, eh bien, il fallait respecter, vous voyez, respecter le développement de l'enfant et ne pas entraver, ne pas entraver. Et puis, on le sait bien. Vous savez, les conflits, c'est jamais que la projection de nos propres conflits. Sur les autres, quand on est en conflit avec les autres, en général, on projette ses propres conflits. Donc là, si on construit l'enfant, alors il n'y a aucune raison qu'il soit en conflit avec les autres. Et au contraire, c'est ce qu'elle a vu. Vous voyez, la conséquence de la concentration, c'est le développement du sens social chez l'enfant.
Ouais, donc si les enfants sont respectés et éduqués dans un cadre bienveillant, ben ils apprennent à obéir à eux-mêmes et non aux autres. Et donc du coup, ils ne vont pas, par exemple, plus tard, suivre un leader qui les entraînerait dans la violence. Donc ça permet d'éviter les conflits, ou en tout cas de les résoudre plus facilement.
Et puis liberté et discipline. C'est-à-dire que si c'est des êtres libres, vous voyez, ils ne vont pas suivre n'importe qui.
Voilà. Hein.
Et puis, alors, bienveillant, oui, mais ça ne suffit pas, bienveillant. C'est vrai, il faut que l'environnement soit bienveillant, ça on est bien d'accord, et c'est bien le propos des éducateurs Montessori, hein, ne jamais répondre directement, mais toujours par l'environnement, mais que l'environnement soit porteur d'organisation intérieure pour l'enfant. Vous voyez, tout ce qu'on va proposer comme activité, et je peux vous dire que toutes les activités qu'on propose aux petits-enfants aujourd'hui, et particulièrement les petits avant 3 ans, j'ai des petits-enfants là, j'ai 2 petits-enfants qui ont moins de 3 ans, je peux vous assurer que tous les jouets qu'on leur propose, ils ne peuvent rien en faire. Mais rien. C'est-à-dire qu'il y a trop de stimulation, il y a trop de paramètres qui varient. Ils ne peuvent rien en faire. Alors que chez Montessori, on a isolé un paramètre, on a isolé une qualité. Du coup, bah oui, ils peuvent en faire quelque chose. Vous voyez, ils peuvent en faire quelque chose. Et c'est terrible, je trouve ça terrible, vous voyez. Vraiment.
Je vais vous lire une dernière citation de Olivier Houdet. Oui. Il disait « La paix est déjà à installer à l'intérieur de soi. Le fait pour l'enfant d'apprendre par lui-même et de pouvoir surmonter par lui-même tant de difficultés lui donne sans doute une satisfaction intérieure qui accroît son sentiment de dignité personnelle et une paix intérieure. La possibilité de choisir ses propres activités l'aide aussi à développer son autonomie, à prendre des initiatives. Le génie du docteur Montessori a été de découvrir ses besoins et d'inventer ses environnements préparés. »
On ne peut qu'applaudir.
Hein, voilà. Voilà. Non, mais c'est chouette qu'un neuroscientifique comme Olivier Houdet ait pris le temps de comprendre en profondeur les travaux de Maria Montessori, parce que pour pouvoir écrire ça, c'est qu'il a quand même, il s'est quand même plongé dedans.
Ouais, et je suis assez d'accord avec vous que on fait cet effort-là. Parce qu'on connaît superficiellement la pédagogie Montessori, très superficiellement. Mais vous savez, moi, je me suis toujours dit, si on essayait des politiques, donc nos ministres de l'Éducation nationale, dans un environnement Montessori 3-6, une maison des enfants, et qu'on lui montrait et expliquait le pourquoi du matériel.
C'est ça. on va enchaîner peut-être directement avec votre coup de cœur ou votre coup de gueule. D'habitude, je commence par la citation et le livre, mais là, est-ce que vous voulez transformer ça en coup de cœur ou en coup de gueule?
Non, moi je ne suis pas du côté du coup de gueule, je suis du côté du coup de cœur, vous savez. Donc, qu'est-ce que vous me demandez?
On va terminer cet épisode par mes 3 questions habituelles. Est-ce que vous auriez un coup de cœur à partager? Mais peut-être du coup lié à ce qu'on était en train de dire, pour que ça bouge au niveau politique, au niveau...
C'est peut-être ça, c'est-à-dire... que chacun ou que quelques-uns, à défaut de chacun, que quelques-uns puissent à un moment faire l'effort de lire vraiment Maria Montessori. Vous voyez, de rentrer vraiment dans la profondeur de sa pensée, parce que je pense qu'elle reste à découvrir. Vous voyez, elle reste à découvrir dans ce qu'elle a elle-même découvert fondamentalement, c'est-à-dire cette polarisation de l'attention et cette concentration chez l'enfant, et puis la transposition des périodes sensibles, c'est-à-dire que l'enfant, il y a des temps et des moments spécifiques pour que l'enfant puisse faire des acquisitions fondamentales, et ces acquisitions, c'est quand même les facteurs d'être humain, c'est-à-dire ce qui nous construit en tant qu'être humain. Et ça, je pense que réellement, ça reste à découvrir. Vous voyez ? Et voilà. Et c'est ça, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est de transmettre ce que je considère être comme l'essence de la pédagogie Montessori. Et qui, de mon point de vue, reste à découvrir.
Oui. Et est-ce que vous auriez un livre à nous recommander aux auditeurs ?
Eh bien, je pense que ce serait l'éducation et la paix. Vous avez l'éducation et la paix qui a été écrit. C'est un cycle de conférences que Maria Montessori a fait en Europe entre 1932 et 1937, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous assure qu'il est d'une actualité absolument invraisemblable. Donc et puis elle dit des choses fondamentales. C'est l'éducation et la paix, c'est à lire et relire. Et d'ailleurs, elle a été proposée trois années de suite, 49, 50 et 51 pour prix Nobel de la paix avec ce livre, ce qu'elle n'a jamais obtenu, le prix Nobel. Mais bon.
D'accord. Et est-ce que vous aimeriez conclure par une citation?
Ah ben, je crois que c'est la citation que je vous ai déjà donnée tout à l'heure. C'est celle qui absolument est au milieu de ma tête en ce moment.
Oui.
C'est-à-dire, l'enfant doit trouver à l'extérieur quelque chose d'organisé qui est directement en lien avec sa propre organisation intérieure. Voilà, pour moi, la clé de la construction, elle est là. Vous voyez, c'est une phrase de la pédagogie scientifique tome 2, c'est-à-dire l'éducation élémentaire maintenant. Et voilà, pour moi, c'est la phrase vraiment qui me travaille en ce moment.
Eh ben, un grand merci d'avoir partagé avec moi et mes auditeurs toutes ces choses passionnantes sur ce sujet. Et on voit que c'est difficile de rester que sur le sujet parce que tout est imbriqué en fait. Toutes les briques se relient et donc du coup à chaque fois on a envie de partir et donner une vision plus globale.
On tire un fil et puis à partir de ce fil on construit quelque chose. On aurait pu tirer un autre fil, mais c'est vrai que c'est une espèce de cohérence, de construction cohérente. Je suis assez d'accord avec vous. Après, on va orienter, on va donner tel éclairage en fonction du fil qu'on tire.
Je voudrais juste terminer en invitant du coup les auditeurs à faire le 3-2-1, comme j'ai proposé au début, à noter trois éléments que vous avez découverts ou redécouverts grâce à cet échange, deux éléments que vous aimeriez partager avec vos collègues ou sur lesquels vous aimeriez continuer de creuser, et un élément qui va déjà influencer votre pratique professionnelle. Voilà, je vous encourage vraiment à vivre, à prendre le temps d'écrire ça après l'écoute de cet épisode. Et Patricia, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui.
Je vous en prie. Merci à vous.